Chapitre 4. Réceptacle des secrets.
L'indice suivant apparut sur les murs. Je n'ignorais pas ce signe-là, mais ne compris pas davantage sa pleine signification. Extrait du journal intime de Navani Colline, Gézès 1174.
« Je cours à travers l'eau », déclara Dalina en reprenant ses esprits. Il bougeait effectivement comme s'il chargeait droit devant lui. La vision prit consistance autour de lui. De l'eau tiède lui éclaboussait les jambes. Il était entouré d'une dizaine d'hommes munis de lances et de marteaux qui traversaient l'eau peu profonde en courant. Il levait bien haut les jambes à chaque pas, les pieds en arrière, les cuisses parallèles à la surface de l'eau, comme s'il défilait. Sauf qu'aucun défilé ne s'était jamais déroulé dans une pagaille aussi totale. De toute évidence, cette manière de courir leur permettait de se déplacer à travers le liquide. Il tenta d'imiter cette curieuse démarche. « Je me trouve dans le lac limpide, je crois », déclara-t-il à mi-voix. « De l'eau tiède qui ne monte qu'aux genoux, et aucun signe de terre en vue. Cela dit, c'est le crépuscule, et je n'y vois pas grand-chose. » Des gens courent avec moi. J'ignore si nous cherchons refuge ou si nous fuyons quelque chose. Je ne vois rien par-dessus mon épaule. Ces gens sont manifestement des soldats, bien que leurs uniformes soient archaïques. Jupes de cuir, casques et plastrons en bronze, jambes et bras nus. Il baissa les yeux vers lui-même. Je porte la même chose. Certains claricines d'Aletkar et de Jacques Eved portaient encore ce genre d'uniforme, ce qui l'empêchait d'identifier précisément l'époque. Toutes les utilisations modernes étaient des retours volontaires à des modes anciennes, émanant de commandants traditionalistes, qui espéraient qu'un style classique inspirerait leurs hommes. Cependant, on utilisait dans ces cas-là un équipement en acier moderne en plus des uniformes anciens. Et il n'en voyait pas trace ici. Dalinar ne posa pas de questions. Il avait découvert que suivre le courant de ses visions lui en apprenait plus que de s'arrêter pour exiger des réponses. Il avait le plus grand mal à courir dans ces eaux. Bien qu'il ait commencé vers l'avant du groupe, il se retrouvait désormais à la traîne. Le groupe courait vers une sorte de grand tumulus, un peu plus loin, que le crépuscule plongeait dans la pénombre. Peut-être ne s'agissait-il pas du lac limpide, en fin de compte. Il ne possédait pas de formation rocheuse comme... Ce n'était pas un tumulus. C'était une forteresse. Dalinar marqua une pause et leva les yeux vers l'édifice au toit en pointe, pareil à un château, qui s'élevait bien droit depuis les eaux calmes du lac. Il n'avait jamais rien vu de semblable. De la pierre noire comme jais. De l'obsidienne? Peut-être cet endroit avait-il été spiricanté. « Il y a une forteresse devant nous », déclara-t-il en se remettant en marche. Elle ne doit plus exister de nos jours, autrement elle serait célèbre. Elle donne l'impression d'être entièrement faite d'obsidienne, avec des tours pareilles à des pointes de flèches, des formes évoquant des nageoires sur les côtés, qui se dressent en pointe à son sommet. Père des tempêtes, c'est majestueux. Nous approchons d'un autre groupe de soldats debout dans l'eau qui brandissent leurs lances dans toutes les directions pour se protéger. Ils sont peut-être une douzaine. Je me trouve en compagnie d'une autre douzaine. Et puis, oui, il y a quelqu'un au milieu d'eux. Un porte-éclat, en armure brillante. Pas simplement un porte-éclat, mais un radieux. Un chevalier dont la cuirasse luisait d'un éclat rouge profond au niveau des jointures et de certaines marques. L'armure possédait cette capacité du temps des jours obscurs. Cette vision se déroulait donc avant la félonie. Comme toutes les cuirasses d'éclat, cette armure-ci était très reconnaissable. Avec cette jupe de maille, ses jointures souples, ses canons d'avant-bras qui s'étendaient légèrement vers l'arrière. Non des bourrasques. Voilà qui ressemblait à l'armure d'Adoline, bien que celle-ci soit plus étroite au niveau de la taille. Une femme? Dalinar ne pouvait s'en assurer avec certitude, car la visière était baissée. « Formez des rangs !» ordonna le chevalier tandis que le groupe de Dalinar arrivait, et il hocha la tête pour lui-même. Oui, une femme. Dalinar et les autres soldats formèrent un cercle autour de la femme chevalier, arme brandie. Non loin de là, un autre groupe de soldats traversait l'eau avec un chevalier en son milieu. « Pourquoi nous avoir rappelés ?» demanda l'un des compagnons de Dalinar. « Caeb pense avoir vu quelque chose, » répondit le chevalier. « Tenez-vous sur le qui-vive, avançons prudemment. » Le groupe se mit en marche pour s'éloigner de la forteresse dans une autre direction que celle d'où il était parti. Dalinar tenait sa lance vers l'extérieur, les tempes baignées de sueur. À ses propres yeux, il ne paraissait pas différer de son apparence habituelle. Les autres, en revanche, devaient le voir comme l'un des leurs. Ils ne savaient toujours pas grand-chose au sujet de ces visions. Le Tout-Puissant les lui envoyait d'une manière ou d'une autre. Mais le Tout-Puissant était mort, de son propre aveu. Alors que fallait-il y comprendre ? « Nous cherchons quelque chose, » reprit Dalinar à voix basse. Des équipes de chevaliers et de soldats ont été envoyées dans la nuit pour trouver quelque chose qui a été repéré.
« Ça va, le petit nouveau ?»
demanda l'un des soldats à ses côtés. « Très bien, » répondit Dalinar. « Je suis seulement inquiet. Enfin, je ne sais même pas vraiment ce qu'on cherche. »
« Un Spren qui ne se comporte pas comme il devrait, » lança l'autre homme. « Ouvre l'œil. Quand Sja Anat touche un Spren, il commence à se comporter bizarrement. Fais-nous signe si tu remarques quoi que ce soit. »
Dalinar hocha la tête puis répéta ces mots tout bas, espérant que Navani les entendrait. Il poursuivit les recherches en compagnie de soldats tandis que la femme chevalier au milieu du groupe s'entretenait avec... personne. Elle donnait l'impression de converser, mais Dalinar ne voyait ni n'entendait personne auprès d'elle. Il reporta son attention sur son environnement. Il avait toujours voulu voir le centre du lac limpide, mais il n'avait jamais eu l'occasion d'en visiter beaucoup plus que la rive. Lors de sa dernière visite en Azir, il n'avait jamais pu trouver le temps de faire un détour dans cette direction. Les Azéens avaient toujours semblé surpris qu'il veuille visiter un tel endroit, car ils affirmaient qu'il n'y avait rien là-bas. Dalinar portait des chaussures serrées, peut-être pour l'empêcher de les entailler sur ce que l'eau pouvait cacher. Il marchait en équilibre instable par endroits, prenant garde à des trous et des reliefs qu'il percevait sans les voir. Il se surprit à regarder de petits poissons filer ici et là, des ombres dans l'eau, et près d'eux, un visage. Un visage. Dalinar poussa un cri, recula vivement et tendit sa lance vers le bas. Il y avait un visage, dans l'eau.
Un Spren des fleuves ?
Demanda le chevalier en s'approchant derrière lui. On aurait dit une ombre, répondit Dalinar, avec des yeux rouges.
« Alors il est ici, » affirma-t-elle, « l'espion de Sja Anat. Caeb, courez jusqu'au poste de contrôle. Les autres, continuez à chercher. Il ne pourra pas aller bien loin sans moyen de transport. »
Elle tira quelque chose de sa ceinture, une petite bourse. « Là !» s'écria Dalinar, repérant un petit point rouge dans l'eau. Le point s'éloigna de lui en nageant comme un poisson. Dalinar se précipita à sa suite, courant comme il avait appris à le faire un peu plus tôt. Cependant, à quoi bon pour chasser un Spren ? On ne pouvait pas les attraper. Il ne connaissait aucune méthode qui le permette. Les autres chargeaient derrière lui. Les poissons se dispersaient, effrayés par la course de Dalinar. « Je cours après un Spren », annonça Dalinar à mi-voix. « C'est ce que nous pourchassions. Il ressemble un peu à un visage indistinct, aux yeux rouges. » Il nage dans l'eau comme un poisson. Attendez, en voilà un autre qui le rejoint. Il est plus grand et ressemble à une silhouette qui mesure bien dans les 2 mètres. Une personne en train de nager, mais comme une ombre. Il...
Sainte bourrasque ! S'exclama soudain la femme chevalier. Il amène une escorte !
Le Spren le plus grand se tortilla, puis s'enfonça davantage dans l'eau et disparut dans le sol rocheux. Dalinar s'arrêta, ne sachant pas trop s'il devait continuer à poursuivre le plus petit ou rester là. Les autres firent demi-tour et se mirent à courir dans l'autre sens. Oh, oh ! Dalinar s'empressa de les imiter tandis que le fond rocheux du lac se mettait à trembler. Il trébucha et tomba dans l'eau avec une gerbe d'éclaboussures. Elle était si claire qu'il voyait le sol se fissurer sous ses pieds, comme si quelque chose de gros le cognait par en dessous. « Venez !» lui cria l'un des soldats en l'attrapant par le bras. Dalinar se laissa relever tandis que les fissures s'élargissaient. La surface du lac, encore calme un peu plus tôt, bouillonnait et s'agitait. Le sol fut ébranlé par une violente secousse qui faillit de nouveau renverser Dalinar. Devant lui, plusieurs soldats tombèrent bel et bien. La femme chevalier restait immobile tandis qu'une énorme lame d'éclat se formait entre ses mains. Dalinar jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, juste à temps pour voir de la pierre émerger de l'eau. Un bras immense, élancé, long d'environ 4,5 mètres. Il surgit de l'eau, puis s'abattit violemment comme pour trouver une prise plus ferme sur le fond du lac. Un autre bras s'éleva tout près, coude tourné vers le ciel, puis tous deux se soulevèrent comme s'ils étaient reliés à un corps en train de faire des pompes. Un corps géant s'arracha du sol rocheux, comme si une personne enfouie dans le sable en émergeait. De l'eau ruisselait du dos de la créature, grêlée de trous et parcourue d'arêtes, couvert de fragments de schiste écorce et de champignons sous-marins. L'esprène avait, d'une manière ou d'une autre, animé la pierre elle-même. Tandis que le corps se levait et se retournait, Dalinar distingua des yeux rouges brillants, pareils à de la pierre en fusion, enfoncé profondément dans un visage de pierre malfaisant. Le corps était squelettique, avec de fins membres osseux et des doigts grêles terminés par des griffes rocheuses. Sa poitrine était une cage thoracique de pierre. « Un foudre clast !» hurlèrent les soldats. « Marteaux ! Préparez vos marteaux !» La femme chevalier se tenait devant la créature en train de se dresser du haut de ses 9 mètres, ruisselant d'eau. Une lumière calme et blanche commença à s'en dégager, qui rappelait à Dalinar la lumière des sphères. De la fulgiflamme. La femme chevalier leva sa lame d'éclat et chargea avec une aisance troublante, comme si l'eau dans laquelle elle marchait n'avait aucune prise sur elle. Peut-être était-ce la force de la cuirasse d'éclat. « Ils ont été créés pour observer », déclara une voix derrière lui. Dalinar se tourna vers le soldat qui l'avait aidé à se relever un peu plus tôt. Un Sélaïen, au visage allongé, au cuir chevelu dégarni et au nez épaté. Dalinar tendit la main pour l'aider à se lever. Ce n'était pas ainsi que l'homme parlait tout à l'heure. Mais Dalinar reconnaissait cette voix. C'était celle qu'il entendait à la fin de la plupart de ses visions. Celle du Tout-Puissant. « Les chevaliers radieux !» déclara le Tout-Puissant qui se levait derrière Dalinar, regardant la femme chevalier attaquer cette bête de cauchemar. Ils étaient une solution, une manière de compenser la destruction causée par les désolations. 10 ordres de chevaliers créés dans l'objectif d'aider les hommes à se battre, puis à rebâtir. Dalinar répéta ses propos mot pour mot, s'efforçant de n'en manquer aucun et de ne pas réfléchir à leur sens. Le Tout-Puissant se tourna vers lui. « J'étais surpris quand ces ordres sont apparus. Je n'ai jamais enseigné ça à mes héros. C'était les Sprennes, désireux d'imiter ce que j'avais offert aux hommes, qui l'ont rendu possible. Vous allez devoir les reformer, c'est votre tâche. Unissez-les. » Créez une forteresse capable de résister à la tempête. Contrariez abjection. Persuadez-le qu'il peut perdre et désignez un champion. Il préférera ce risque à celui d'être de nouveau vaincu, comme il l'a si souvent été. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. » Dalinar termina de répéter ces mots. Derrière lui, le combat commença pour de bon, dans les éclaboussures et les crissements de pierre. Des soldats approchèrent, armés de marteaux, et contre toute attente, ils brillaient désormais eux aussi de fulgiflammes, quoique d'un éclat bien plus faible. « Vous avez été surpris par l'arrivée des chevaliers, » dit Dalinar au Tout-Puissant. « Et cette force, cet ennemi, a réussi à vous tuer. Vous n'avez jamais été Dieu. » car Dieu sait tout. Dieu ne peut être tué. Dans ce cas, qui étiez-vous ? »
Le Tout-Puissant ne répondit pas. Il ne le pouvait pas. Dalinar avait compris que ses visions étaient une sorte d'expérience prédéterminée, un peu comme une pièce. Les gens qui y figuraient pouvaient réagir à la présence de Dalinar, comme des acteurs capables d'improviser dans une certaine mesure. Mais le Tout-Puissant lui-même ne le faisait jamais.
« Je m'y efforcerai, » promit Dalinar. « Je les reformerai, je les préparerai. Vous m'avez dit bien des choses, mais il y en a une que j'ai comprise par moi-même. Si vous avez pu être tué, alors cet autre qui vous ressemble, votre ennemi, peut sans doute l'être aussi. »
L'obscurité engloutit de nouveau Dalinar. Les hurlements et les bruits d'éclaboussures cessèrent. Cette vision se déroulait-elle lors d'une désolation? Ou entre deux? Ses visions ne lui en avaient jamais appris assez. Tandis que la noirceur s'évaporait, il se retrouva étendu dans une petite chambre de pierre à l'intérieur de son complexe, au sein des camps de guerre.